incarné, présent devant des gens qui t'ont vu vivre et qui ont pu nous rapporter ta propre vie à travers les évangiles. Et en lisant les évangiles, encore une fois, nous avons, Seigneur, un modèle qui est là de ce que nous voulons être comme personne à qui nous voulons ressembler. Seigneur, je veux te demander d'ouvrir nos cœurs ce matin, de venir ouvrir nos cœurs à cette mission que tu nous as donnée d'aller faire de toutes les nations des disciples et commençant par notre famille, comme Danny vient nous le rappeler. Je prie d'ouvrir nos cœurs afin que nos cœurs puissent être stimulés, Seigneur, encouragés. Que le défi que tu places devant nous, nous puissions, Seigneur, l'accepter et entrer dans ce défi par la foi, un pas à la fois, en acceptant d'avancer dans ça. Je te prie, Père, de venir nous conduire par ta parole ce matin, de venir nous convaincre par ta parole ce matin, en voyant, Seigneur, à quel point c'est vraiment un modèle biblique à travers toutes les Écritures. Père, en terminant, je suis tellement, tellement, tellement reconnaissant pour les modèles que tu as placés dans ma vie à moi, Seigneur. Dans ma famille, je pense à ma mère, je pense à mon beau-père, des modèles de vie chrétienne, Seigneur. Très tôt dans ma vie chrétienne, ils étaient là et je pouvais les observer, leur poser des questions et j'ai vu en eux une vie chrétienne engagée, Seigneur. Et j'ai vu en eux aussi des gens qui savent se repentir, qui savent s'humilier, Seigneur. J'ai vu des gens imparfaits qui s'appuient sur la grâce pour avancer. Je te remercie, Seigneur, pour les hommes dans l'Église qui se sont investis dans ma vie pour être des modèles pour moi personnellement. D'autres qui le font encore aujourd'hui à ce jour, Seigneur. Seigneur, je suis reconnaissant pour ça. Ces gens-là ont fait plus de différence dans ma vie que tous les bouquins que j'ai lus, Seigneur. Et je te prie de venir ouvrir nos cœurs afin que cette Église soit une Église qui entre, Seigneur, dans cette vision de la formation de disciples. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Merci, Danny. C'est une excellente introduction pour le sujet de ce matin. Les êtres humains apprennent en observant. Et avec les tout-petits comme ça, on le découvre assez vite, après quelques mois, Danny l'a bien illustré, les êtres humains apprennent en observant d'autres êtres humains. Alors, on a tous l'image de la petite fille qui s'en va chercher des jouets qui ressemblent à ce que maman ou papa se sent, que ce soit des outils, des téléphones, la vaisselle, n'importe quoi, puis qui veut reproduire la même chose, d'accord? L'être humain apprend en observant. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, après ça, notre personnalité se définit, c'est vrai. Et donc, je vais devenir un peu plus moi-même dans le processus, mais en même temps, je vais continuer à apprendre toujours en observant. Hier, j'étais en train j'étais à mon cours de karaté, puis on jasait après ça avec le prof. Puis le prof nous parlait de formation, puis je l'écoutais, puis il a fait la moitié de mon sermon, sinon qu'il manquait l'essentiel Christ, on s'entend. Mais c'est ça qui a passé son temps à répéter. Comment tu deviens bon là-dedans? C'est en observant. Quand tu deviens un instructeur, tu observes, tu apprends, tu vois les attitudes, tu vois les comportements, tu vois la persévérance. On apprend en observant. C'est comme ça que l'être humain apprend. Et même si à un certain moment donné, à travers les années, j'ai ma personnalité qui vient se définir, qui vient s'affirmer, je vais continuer à apprendre en observant. D'accord? Je développe un discernement, j'observe avec discernement, mais je vais continuer à apprendre toute ma vie en observant, constamment. Et comme Danny l'a mentionné, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, c'est sûr, on pense à des passages comme le psaume 1.1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». Alors, dépendamment avec qui tu vas te tenir, ça peut déterminer énormément ce que tu vas devenir. C'est vrai. Tu te tiens avec des bums à l'école, ben donne-toi un peu de temps, puis c'est ça que tu vas devenir, un bum. Tu te tiens avec des gens qui n'ont pas vraiment d'ambition, qui n'avancent pas, que ce soit dans leur vie chrétienne ou dans la vie en général, et ils vont déteindre sur toi. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que comme chrétien, je vais chercher simplement à me tenir avec du monde qui sont « wow, super génial, incroyable ». Non, les autres, je vais continuer à les aimer, je vais prendre du temps avec eux, mais je suis conscient que si c'est avec eux seulement que je me tiens, ils vont avoir une influence sur ma vie. Ils vont avoir une influence sur ma vie pour le meilleur et pour le pire. Et donc, je dois user de discernement à savoir qui va venir influencer ma vie. C'est ton cas si tu es à l'école actuellement, c'est ton cas au travail, c'est ton cas partout dans la vie. Pense dans une semaine, en moyenne, dans un mois, avec qui tu te tiens. Ben, si c'est juste avec toi-même, peut-être que c'est pour le pire aussi. Je ne sais pas. Ça dépend de ta consécration. Mais pense avec qui tu tiens, puis ça te donne la mesure. D'accord? Et donc, on va aimer les gens, on va continuer à aller vers eux, mais je veux garder ça en tête. Parce qu'on apprend en observant les autres. Et ça, c'est vrai toute notre vie. C'est vrai pour moi encore maintenant. Ça va être vrai toute ma vie. Moi, j'aime les bouquins. Je l'ai mentionné en prière. J'aime lire. D'accord? Je parlais à quelqu'un cette semaine. Je dis, ouais, je suis en train de lire une petite plaquette, 200 pages. Il m'a dit, 200 pages, c'est pas une plaquette. Les gens qui aiment lire, vous savez, c'est rien 200 pages. Donc, je lis tout le temps. Je suis toujours en train de lire. Vous me demandez quel livre je suis en train de lire. J'en lis 10 en même temps. Pas en même temps, mais en même temps. D'accord? Mais si vous me donnez le choix entre m'asseoir avec l'auteur du livre ou passer 10 heures avec son bouquin, la décision n'est pas difficile. La décision n'est pas difficile. Je vais être avec la personne. Kim Phuc, la dame qui est venue ici donner son témoignage, la petite Vietnamienne qui a été brûlée dans la guerre du Vietnam, tout ça. Moi, j'ai eu le privilège d'aller m'asseoir avec elle, manger avec elle deux fois. Ce que je retiens de tout ce qu'elle a pu dire en public, de tout ce qui est écrit sur elle, de tout ce qu'elle a publié, c'est ces deux repas avec elle. Parce que j'ai eu accès à son cœur à ce moment-là. Alors, voyez-vous, il y a des choses qu'on va apprendre à travers des prédications, il y a des choses qu'on va apprendre à travers des livres qu'on va lire, à travers des conférences. Il y a un bout de chemin qu'on peut faire comme ça. Mais il n'y a rien de comparable avec passer du temps avec quelqu'un pour apprendre de sa vie, s'investir dans une relation où je vais apprendre de la personne en l'observant. Et donc, ce que ça veut dire comme chrétien, c'est qu'on a des opportunités extraordinaires qui sont devant nous. Parce que nous avons l'opportunité de choisir d'être des modèles et d'être accessibles et que des gens puissent entrer dans notre vie et nous voir. Et en même temps, tout ça peut faire peur parce que ça veut dire qu'on a des responsabilités incroyables aussi. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul dit, « Soyez donc mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ce matin, je vais commencer avec une déclaration. Plusieurs d'entre vous, ça va vous stimuler. Vous allez dire, « Ah, c'est ça mon appel! Ça m'excite, j'aime ça! » D'autres, ça va vous faire frémir. Restez avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Je suis fermement convaincu, à la lumière des Écritures, ça fait 20 ans que j'étudie les Écritures. Je suis convaincu de ce que je vais déclarer là. Dieu nous appelle tous les chrétiens, à faire des disciples, en acceptant d'être des modèles, en acceptant d'être observés et en s'investissant dans des relations personnelles. Restez avec moi, sauvez-vous pas tout de suite, d'accord? Dieu nous appelle tous à faire des disciples en acceptant d'être des modèles, en acceptant d'être observés et en s'investissant dans des relations personnelles. La réalité, c'est que de toute façon, vous allez être observés. La réalité, c'est que de toute façon, vous êtes des modèles, pour le meilleur et pour le pire. Les gens vous observent. Si tu as 14 ans, si tu as 15 ans, tu as des frères et sœurs plus jeunes, ils t'observent. Ils sont en train de voir des choses, d'apprendre des choses sur la vie en te regardant. Si tu es à l'école, tes amis à l'école, les gens qui sont là, t'observent. C'est ça la réalité. Si tu es un parent, tes enfants t'observent. Tu le sais assez vite. À un moment donné, ils disent quelque chose. Tu dis où ils ont attrapé ça, puis tu cherches, puis tu dis, c'est vrai que j'avais échappé ça l'autre fois. Tes enfants t'observent. Tes collègues de travail t'observent, tes voisins t'observent, ton épouse t'observe. La réalité, c'est que de toute façon, nous sommes des modèles pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes des modèles. Et ça, c'est un défi pour nous. Des fois, on voudrait ne pas assumer cette responsabilité-là, passer en dessous du radar, être invisible pour avoir une espèce d'indépendance et pas porter cette responsabilité-là. Mais que ce soit par ma consécration au Seigneur, que ce soit par ma vie de sainteté, que ce soit par ma vie de péché, par ma léthargie spirituelle, je suis un modèle. Si les gens autour de moi ont du discernement, ils vont discerner si je suis un modèle à imiter ou non. S'ils n'en ont pas, peut-être que ce ne sera pas le cas. Peut-être qu'ils vont simplement chercher à m'imiter et à me suivre. Alors, l'idée est simple. Dès que tu deviens chrétien, dès que l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en toi, tu deviens un chrétien, tu es appelé à devenir un modèle. Imparfait, c'est même pas une question ça. Mais c'est clair que tu es appelé à devenir un modèle et tu es appelé à t'investir dans des relations où les gens vont pouvoir apprendre en t'observant. Entrer en relation avec toi, on va prendre le temps de le regarder ensemble ce matin dans le modèle biblique. C'est un modèle universel dans les Écritures. Maintenant, quand je dis ça, c'est chacun selon nos dons, selon nos capacités. D'accord? Alors, il y en a qui sont des brillants communicateurs, ils vont pouvoir aller ouvrir les Écritures, plonger dans les Écritures, enseigner un paquet de trucs. Peut-être que ce n'est pas ton cas. Peut-être que la mesure dans laquelle tu es appelé à t'investir dans des relations, ce n'est pas la même, puis les gens ne pourront pas découvrir en toi un million d'affaires. Mais chaque personne qui a reçu l'Esprit Saint est appelée à devenir un modèle et à refléter par sa vie personnelle, en acceptant d'être ouvert, en acceptant la vulnérabilité d'être transparent, que d'autres personnes vont vouloir rentrer dans ma vie et m'observer et appeler à m'investir aussi. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu a toujours travaillé. Dieu ne forme pas les gens uniquement à travers un livre qu'il a inspiré. Il le fait à travers des vies qui ont adopté les principes de ce livre-là, qui sont eux-mêmes transformés par ce livre-là. Dieu a toujours travaillé comme ça. On va regarder rapidement ensemble, à travers l'ensemble des Écritures, différents moments où on voit cette idée-là qui revient. Alors, je commence dans l'Ancien Testament, je pense à Deutéronome. Deutéronome, Dieu est en train de donner la loi. Cinquième livre de l'Ancien Testament, Dieu donne la loi à Israël, sa pensée, qu'est-ce qu'il attend du peuple d'Israël. Et voici ce qu'on lit dans Deutéronome 6, 6 et 7. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Alors, ils vont venir te bouleverser, te transformer. Ça ne sera pas théorique, ça ne sera pas simplement une théorie, une doctrine, un enseignement. C'est quelque chose qui va venir bouleverser ton propre cœur. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Ça va faire partie de votre vie de famille. Ces préceptes que je t'ai donnés, cette sagesse que je t'ai donnée, cette vision divine que je t'ai donnée, ces commandements vont faire partie de ta vie tant et si bien, qu'ils vont toujours être là disponibles pour que tu puisses y faire référence dans le quotidien avec tes enfants, avec ta famille. Ça va être présent là, pas simplement quand on prend un temps biblique ensemble. Puis le soir après le souper, on rouvre la Bible puis on commence à partager ensemble, ce qui est déjà super. Mais ça va être plus que ça, ça va être disponible à tout moment. Alors, par exemple, avec Bastien, on fait du sport ensemble. Bien, les meilleurs moments où on a des discussions profondes, c'est souvent lorsqu'on se rend à notre sport puis on revient de notre sport. Avant-hier, on jase ensemble, on revient sur une situation qu'on a vécue quand on s'entraînait ensemble. Puis on jase ensemble de ça. Puis à un certain moment donné, Bastien me dit, « Père, il y a quelque chose quand même que je veux adresser parce qu'il trouve peut-être que je ne suis pas tout à fait comme Jésus. » Je pensais. Je pensais qu'il y avait juste ma femme qui avait catché que je ne l'étais pas. Mais voyez-vous, on est en train de faire, à ce moment-là, des discussions comme ça. Et puis, on s'en va vers la pensée de Dieu. Un autre exemple, tout le livre des Proverbes. Je veux dire, quand on y pense, le livre des Proverbes, fondamentalement, dans son ensemble, c'est quoi? C'est l'instruction d'un père, d'une mère à leurs enfants. Où ils sont en train de leur communiquer non seulement ce qu'ils ont appris sur Dieu, mais ce qu'ils ont expérimenté. Alors, le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse pratique. Quand vous lisez les Proverbes, il y a un paquet de conseils extrêmement pratiques qui parlent de réaction, d'attitude, de pensée, de comportement, de choix, de décision. C'est pas simplement « voici comment Dieu est, voici ce que Dieu attend de toi », c'est « voici ce qui va se passer si tu fais tel choix, si tu fais tel choix ». Alors, fais pas ce choix-là. C'est extrêmement pratique. Et le livre des Proverbes, c'est un enseignement où les parents sont en train de communiquer cela. Proverbe 1:8, « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. » C'est encore à travers cette relation où je suis en train de m'investir dans l'autre, puis je suis en train de l'accompagner dans son quotidien, puis là, je vais l'instruire à ce moment-là. Maintenant, pensez aussi à des relations qu'on voit dans l'Ancien Testament. Moïse et Josué. Alors, Josué a marché dans les traces de Moïse. C'était littéralement son bras droit, c'était son helper, c'était celui qui était là constamment pour l'aider. Et puis, à travers ça, il a été formé. Qu'est-ce qui se passe après? À un certain moment donné, Dieu vient chercher Moïse, puis il dit, « Bon, mais Josué, t'es prêt, t'as été formé. » Mais Josué est le résultat de cette relation-là. Il a vu Moïse dans sa communion avec Dieu, il a vu Moïse dans les moments difficiles, il a vu Moïse dans les moments désespérés, il a vu Moïse lorsqu'il faisait face au peuple qui était rebelle. Il a vu Moïse dans la réalité. Et donc, il a été imprégné de ça, il a été façonné de ça. Élie et Élisée, la même chose. Puis on arrive dans le Nouveau Testament, je pense à Jésus, qui forme ses disciples. Est-ce que Jésus, ça se passait dans des classes de cours où il leur donnait, regardez, vous avez le manuel ici, lisez ça, on a un examen la semaine prochaine, puis on s'en reparle. Ça ne passait pas de même. Les gars vivaient avec lui, les filles vivaient avec lui, ils le voyaient réagir, ils le voyaient pleurer, ils le voyaient être irrité contre le péché de l'homme, ils le voyaient, même dans des moments de détresse, ils l'ont vu. Ils sont là avec lui, je veux dire, littéralement, ils vivaient avec lui. Alors, est-ce que Jésus était fatigué, puis il disait, OK, là, ma journée est faite, je suis brûlé, on essaie de se pousser. Ils sont là, ils l'entendent dire ça. Oui, mais Jésus, il y en a encore 4000 qui sont paralytiques que tu pourrais guérir. Écoute, je suis brûlé, on peut-tu prendre un break? Puis il voit réagir après lorsqu'il voit la foule arriver, puis il est ému, puis il se donne encore. Mais ça, c'est un moment où ils sont en train de l'observer et apprendre de lui. Alors, Jésus formait à travers ses relations, lorsqu'il vivait avec ses disciples, lorsqu'il vivait avec les gens. C'était pas simplement un enseignement théorique. La relation de Paul et de Timothée, la relation de Paul avec plein de gens qu'il a formés, ça sort dans ses lettres. Il les connaissait personnellement. Il les appelait mes enfants dans la foi. Et c'est pas simplement prêchant des sermons. Il va dire à Timothée, dans une de ses lettres, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Puis il connaît Timothée. Il dit, Timothée, t'es un timide, t'as des craintes, t'as des peurs, je te connais, man. Je t'ai confié des églises, je sais quand est-ce que tu t'esquives, je sais quand est-ce que tu résistes à la direction de l'esprit. Je connais tout ça, mon homme, on va avoir une discussion ensemble. C'est un peu gênant parce que ça a été publié dans la Bible, mais ça, c'est de la formation de disciples. C'est vrai, vous comprenez, c'est pas théorique. Il connaissait Timothée personnellement. Il connaissait ses faiblesses, il connaissait ses luttes. Et donc, il y avait cette relation-là. Où Paul voyageait avec eux et puis il les connaissait et eux apprenaient à le connaître. On trouve même l'idée que les dames âgées, les dames plus vieilles en expérience doivent s'investir chez les dames plus jeunes à travers des relations, encore une fois, où elles vont les enseigner. Dans Tite 2, les versets 3 à 5, on lit « De même demande aux femmes âgées de mener une vie qui plaît à Dieu. » Elles ne doivent pas dire du mal des autres ni être esclaves de la boisson. Qu'elles enseignent ce qui est bien. » Qu'elles apprennent donc aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être des personnes raisonnables et pures. Là, on est dans le day-to-day. Donc, elles doivent les enseigner sur comment est-ce que tu vis comme chrétien. Comment est-ce que tu marches comme chrétien. Comment est-ce que ça réagit un chrétien devant des situations. Ah, je sais que ton mari est poche parfois. Je sais. On va en parler ensemble. On va pleurer ensemble. Après ça, on va voir ensemble. Comment est-ce que tu fonctionnes dans ce contexte-là? Tes enfants sont décourageants, ils sont décevants. Je sais, j'ai passé par là. Et donc, partout à travers les Écritures, je vois cette idée constamment de vies qui deviennent des modèles pour d'autres vies. Ce n'est pas simplement un contexte où il y a des gens qui sont en avant sur l'estrade. Ils sont censés être parfaits ceux-là. Il ne faudrait surtout pas gratter très creux puis découvrir à quel point ils ne le sont pas. Mais ceux-là sont censés être parfaits, puis quand on a une question, on a un textbook, on a un livre à aller voir, puis on va aller trouver des réponses. À travers toutes les Écritures, ce que je vois, c'est des gens qui sont transformés par la parole de Dieu, c'est vrai, donc par un livre, avec l'aide de l'Esprit-Saint, mais cette transformation-là dans leur vie leur permet justement de s'exposer à d'autres personnes et de devenir eux-mêmes des modèles pour d'autres personnes. Et d'entrer dans ce rapport-là, où toute la vie chrétienne n'est pas simplement un concept théorique, où on suit des conférences, on écoute des preachs, on lit des livres, puis on essaie de se démener là-dedans. Puis c'est comme ça que la société fonctionne aussi, à plein d'égards. Je pense avoir déjà fait référence à cet exemple-là dans l'Église, mais quand vous avez, par exemple, au Québec, on a eu toute la situation où il y a des milliers d'infirmières qui ont été comme poussées ou encouragées à la retraite. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Dans une entreprise où à un certain moment donné, tu vas comme éliminer une grosse majorité du staff, des employés qui sont plus vieux, qui sont expérimentés. Qu'est-ce qui se passe? Littéralement, l'entreprise perd un paquet de connaissances. C'est tout là dans les bouquins, ils ont tous été formés, ces bancs d'école, tout le kit, mais la connaissance sur le terrain là, ça vaut des milliers, voire des millions de dollars. Parce que ce sont des gens qui ont vécu ces principes-là, qui savent comment l'entreprise fonctionne. Qu'est-ce que tu fais quand cette machine-là, elle saute? Ben, si tu n'as aucune expérience, tu vas sortir tes bouquins, tu vas faire des téléphones, puis dans trois jours, on va repartir la machine. Attends un peu, si seulement on avait Joe qui l'a reparti 46 fois, qui pouvait venir ici, il nous débuggerait ça, puis on repartirait tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? On forme sur le banc d'école, excellent, pas de problème. Je rentre en entreprise, qu'est-ce que je fais? J'apprends avec des gens qui ont de l'expérience. Et donc, vous pouvez l'appliquer dans plein de contextes. Alors, imaginez, si on forme dans le domaine matériel, dans le domaine technique, dans des choses comme ça, non seulement avec la théorie sur les bancs d'école, mais en observant, en faisant des stages, en allant travailler avec des gens d'expérience, imaginez ce qu'il y en est lorsqu'on parle de voir Christ être façonné dans le cœur d'un individu, dans une vie. C'est un chef-d'œuvre qu'on est en train de travailler ici, là. Ça ne se fait pas juste à travers des bouquins. Ça se fait avec l'assistance du Saint-Esprit, mais ça se fait à travers des relations. Et c'est ce que je vois constamment ici dans le modèle, dans l'approche que Jésus utilise. Et ce que ça me demande d'accepter, c'est que le regard que l'autre va déposer sur moi, l'échange qu'on va avoir ensemble est profitable. Ça me demande d'accepter qu'il y a des gens qui vont m'observer et que ça va être profitable pour eux et pour moi de m'exposer comme ça. Le regard de mes enfants sur ma vie est bon pour moi et il est bon pour eux. Ça me demande d'accepter cette réalité-là. Maintenant, je crois que c'est ce que Jésus a fait aussi lorsqu'il est venu sur la terre. Je pense non seulement que c'est un modèle qu'on voit à travers toutes les Écritures, mais je pense que Jésus lui-même est l'exemple parfait de ça. Évidemment, lorsque Jésus est venu, sa première mission, c'était quoi? Mourir sur une croix. Jésus est venu pour mourir sur la croix, payer pour nos péchés, nous ouvrir la voie pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour cela. Jésus est venu pour nous faire connaître le Père. Jésus est venu pour rendre visible, je l'ai dit dans la dernière année, un être invisible. D'accord? Quand on parle de Dieu avec les gens nous disent, OK, Dieu, c'est un concept, Dieu. Je peux-tu aller prendre un café avec lui, Dieu? Dieu est invisible, c'est un esprit. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsque Dieu le Fils s'est fait homme et qu'il a marché parmi les hommes, qu'est-ce qui fait que c'est tellement fascinant de lire les évangiles? C'est de le voir dans ses réactions, dans ses attitudes, dans ses enseignements. Et donc, Dieu s'est incarné à ce moment-là. Un être invisible qui peut avoir l'air juste d'un concept par moment est devenu très tangible. Et les disciples ont pu vivre avec lui, marcher avec lui, le voir réagir. Le Dieu invisible est devenu visible à ce moment-là. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Bien, il est venu sur la terre, il s'est retiré, il s'est trouvé une grosse tablette, il a écrit un livre. Puis il a dit, tenez, vous lirez ça. C'est pas ça qu'il a fait, pantoute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais écrit de livre. Sérieusement, c'est lui qui aurait dû l'écrire, la Bible, on s'entend? Quand il parlait, c'était la Bible, tu sais? Fait qu'il aurait dû l'écrire lui-même. Il s'est investi dans des relations avec des gens. C'est ça qu'il a fait. Puis il a dit, regardez-moi vivre, écoutez-moi enseigner, regardez mes réactions, regardez-moi pleurer. Puis apprenez, c'est quoi être un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est quoi être selon Dieu, c'est quoi le cœur de Dieu. Et lorsque Jésus arrive à la fin de son ministère terrestre, voici le défi qu'il lance à ses disciples, il leur dit, maintenant c'est vous qui allez faire ça. Il leur dit, dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que moi j'ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire ici, « Moi, j'ai rendu le Dieu invisible, visible, par ma vie. Vous m'avez côtoyé. » Maintenant, je dois retourner, je vais redevenir invisible. Moi, personnellement, je n'ai pas eu encore d'apparition de Jésus, puis il ne se présente jamais quand je parle de lui dans des meetings. Il est redevenu invisible. Et puis là, il leur dit, maintenant, je vais quand même être avec vous, parce que si vous croyez en moi, vous saisissez qui je suis, mon esprit va venir habiter en vous, et mon esprit va vous transformer, c'est ça qui va se passer. Et donc, mon esprit va vous conduire ensuite de cela dans toute la vérité. Il leur dit, maintenant, c'est vous qui devenez la version visible de tous ces principes-là. Et donc, on entre dans une chaîne à ce moment-là où des gens sont bouleversés par cette rencontre avec Jésus, reçoivent l'Esprit-Saint, sont transformés d'année en année et deviennent eux-mêmes cette incarnation de la personne de Dieu devant les autres. Je ne suis pas en train de dire qu'on devient Dieu, vous comprenez? Mais je suis en train de dire que ce qui peut sonner, résonner comme une espèce de concept bizarre, des idées de la philosophie. Ah oui, c'est ça que tu crois, c'est tes principes philosophiques dans le fond. Puis les gens, quand tu leur dis « je suis chrétien », ça peut être extrêmement abstrait tout ça. Mais lorsque tu les invites chez vous, puis ils commencent à découvrir ta vie, découvrir tes luttes, découvrir tes victoires, découvrir comment tu t'en sors dans les moments difficiles de la vie, découvrir comment tu élèves ta famille, comment tu discutes avec ton épouse, comment tu parles avec les enfants lorsqu'ils te regardent travailler, il y a des choses qui deviennent extrêmement tangibles. Et ce Dieu-là, à un certain moment donné, devient « oui, mais qu'est-ce que je fais pour vivre ça? » Est-ce que c'est un code que je dois adopter, des livres que je dois lire? Qu'est-ce que je dois lire? Dis-moi ça. Ah non, c'est pas juste ça. À travers le livre, oui, tu vas connaître Dieu, c'est vrai. Mais il faut qu'il vienne dans ton cœur, ce Dieu-là, pour te transformer. Qu'est-ce que t'as que moi, j'ai pas? Et c'est ça qui s'est passé ici. Alors voyez-vous, à travers toute la Bible, je vois ce concept qui revient constamment où des gens s'investissent dans la vie d'autres personnes. Constamment à travers toutes les Écritures. C'est l'approche que Jésus a pris lui-même. Et Jésus lui-même est l'incarnation du Dieu invisible. Il a rendu visible un Dieu qui est invisible. Maintenant, où est-ce que Jésus est reparti? Il est invisible. Et la seule part qui reste visible du christianisme, c'est vous. Dans votre milieu de travail, peut-être, si vous êtes le seul chrétien, vous êtes la seule part de ce qui reste visible du christianisme. À part de ça, on a la Bible, c'est vrai. Mais c'est vous. Et c'est ça le mandat que Jésus donne à ses disciples. Il leur dit, maintenant, ça va être à votre tour. C'est vous qui allez y aller. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu dans ma vie, c'est à vous, à présent, d'incarner ça. À travers la dernière année, on est dans le livre des Actes, puis je parle constamment de la mission, Je parlais avec un frère dernièrement, puis il dit, Yannick, on dirait que tu as un clou, un marteau, puis tu frappes, puis tu n'arrêtes pas. Et c'est intentionnel. Lorsque je m'en allais dans le livre des Actes, je savais le thème majeur, c'est vraiment ça. D'accord? C'est Christ qui part, transforme l'Église, les gens se convertissent, eux-mêmes entrent dans cette mission-là, puis on voit littéralement Matthieu 28, 19 et 20 se réaliser, ce mandat-là se réaliser. C'est vrai. Maintenant, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, j'avais à cœur de partager avec l'Assemblée cette idée qu'on est tous appelés à entrer dans cette mission-là, non seulement en annonçant le message de l'Évangile, en annonçant comment tu fais pour devenir chrétien. Mais nous sommes tous appelés à entrer dans cette mission-là en acceptant ce mandat de faire des disciples. Et c'est peut-être parce que mes enfants sont en train de grandir, ils sont dans l'adolescence, tout ça, puis je vois la relation qui évolue. Évidemment, depuis qu'ils sont tout petits, le désir de mon cœur, le désir d'Esther, c'est de faire d'eux des disciples de Jésus-Christ. Et ils ont un choix à faire à un certain moment donné dans le processus, tout ça. Mais je les regarde aller dans la vie, puis à un certain moment donné, je dis au Seigneur, et je me dis à moi-même, OK, on pourrait passer en deuxième vitesse, il me semble. C'est comme s'il y a toute l'enfance, il y a toute la petite enfance, il y a toute cette période-là où tu donnes des principes, puis tu essaies de rendre ça concret. Mais à un certain moment donné, tu vois que la personne est de plus en plus consciente de ses choix, veut faire des choix par elle-même. Puis là, tu veux t'asseoir avec eux, puis dire, regarde, je t'ai enseigné des principes jusqu'ici dans ta vie, c'était pour faire de toi un disciple, c'est vrai. Maintenant, souvent, ce que j'arrivais à faire, c'est, fais ci, fais pas ça, voici ce que la Bible dit. J'aimerais ça aller un petit peu plus loin, toi et moi, maintenant. Parce que je peux t'aider à devenir un homme, une femme de Dieu. Je suis passé par là. Les luttes que tu vis, là, je les ai vécues. On peut aller plus loin ensemble dans la relation. Et ce que ça suscitait comme réflexion en moi, c'est à quel point toute l'Église doit entrer dans cette vision-là. Où chacun, selon nos dons, nos capacités, on est appelé à entrer dans cette formation de disciples. Et je vais vous donner une définition plus large ce matin, d'accord? Parce que à l'Église ici, lorsque vous pensez formation de disciples, souvent on pense coaching. On a une approche qui est assez formelle, que je trouve géniale, d'accord? Où on va s'asseoir à toutes les deux semaines environ, 3-4 personnes, puis vraiment on devient intime, puis on va reconnaître des choses, des luttes, on va être redevables les uns aux autres, tout ça, puis on va étudier. Et il y a plein de gens qui sont impliqués là-dedans, c'est génial. C'est absolument génial, d'accord? C'est plus large que ça encore, la formation de disciples. Et donc, ça se fait aussi plus naturellement dans toutes sortes de contextes que simplement dans ce contexte-là formel. D'accord? Et donc, je vais vous donner une définition qui est plus large de ça un petit peu. La formation de disciple, c'est une relation intentionnelle où j'accepte d'être observé par quelqu'un d'autre, questionné par quelqu'un d'autre, et je choisis de m'investir personnellement dans la vie d'une autre personne en vue de l'aider à grandir à l'image de Jésus-Christ. Donc, c'est une relation intentionnelle où j'accepte d'être observé, questionné, m'investir personnellement dans la vie d'une autre personne en vue de l'aider à grandir à l'image de Jésus-Christ. Et donc, ça peut se produire partout. Peut-être que dans votre vision de la formation de disciples, vous dites la formation de disciples, c'est « Ah oui, c'est ça, c'est le coaching. » À l'Église de l'Espoir, la formation de disciples, c'est l'affaire que tu fais quand tu as suivi le cours avec Yannick, puis tu te réunis à 3-4. J'aime beaucoup cette citation de Bill Hall dans son livre « Complete Discipleship ». Voici ce qu'il dit. « La formation de disciples n'est pas seulement une des choses que l'Église fait, mais c'est ce qu'elle fait. » La formation de disciples n'est pas seulement une des choses que l'Église fait, mais c'est ce qu'elle fait. Et donc, dans un certain sens, tout ce qu'on fait vise ça. Vous allez dire glorifier Dieu, évidemment. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Aider des gens à grandir à l'image de Christ, faire des disciples de Jésus-Christ. Certains d'entre vous, votre réflexion, c'est vous dites « Oui, mais ça, c'est pas pour moi ». Cette semaine, j'imaginais la conversation entre deux personnes qui sont en train de jaser et qui disent « Hey, c'est quoi ton don, toi? » « Ah, mon don, à moi, c'est faire des disciples. »« Ah, moi, j'ai pas ce don-là. » Ça marche pas comme ça, vous comprenez? Si je suis un enfant de Dieu, si j'ai cru en Jésus-Christ, ça veut dire que je suis en train de devenir de plus en plus à l'image de Christ. Je suis, moi, un disciple en formation, c'est ça. Et au fur et à mesure que je grandis en maturité, je peux tranquillement m'investir dans d'autres vies où je vais les aider eux-mêmes à cheminer. Et il n'y a pas de note de passage où à un certain moment donné, le pasteur te convoque dans son bureau et il dit « Hey, on va célébrer ta graduation. Tu es maintenant officiellement un vrai disciple de Jésus-Christ. Tu vas pouvoir commencer à te reproduire. Prochaine étape, tu viens prendre le cours sur le coaching. Parce que tu as gradué. » Si c'est ça, je vous le dis, moi j'ai poché. Je n'ai pas gradué. J'en parlerai à ma femme, j'en parlerai à mes enfants, j'en parlerai à mon coach, j'en parlerai aux gens qui travaillent avec moi. Puis si ça fait un bout de temps que vous êtes à l'église, vous le savez tout. Je n'ai pas gradué. Alors, si tu as reçu l'Esprit Saint, tu es un disciple en formation et tu es appelé à t'investir dans des relations comme ça, où les gens vont pouvoir t'observer, vont pouvoir te connaître, ils vont avoir une certaine vulnérabilité dans ta vie. Et tu vas devenir intentionnel dans tout ça. Maintenant, je vais vous challenger un peu plus. Il y a combien de personnes ici qui sont chrétiens depuis au moins 5 ans? Vous considérez des disciples de Jésus-Christ? Ah, vous baissez les mains vite. Vous baissez les mains vite, hein? Vous ne considérez pas parfait, j'imagine. Vous êtes tous en mesure de vous investir dans la formation de disciples. Vous êtes tous en mesure de vous investir dans la formation de disciples. Que ce soit de manière très, très formelle, comme on le fait à travers le coaching, ou que ce soit de manière plus informelle, je vais donner des exemples, vous êtes tous en mesure de le faire. Mais ça fait peur, cette affaire-là. Ça fait peur, cette histoire-là. On a des craintes face à ça. Parce que ça veut dire qu'il faut que je me rende vulnérable, il faut que j'accepte d'être observé. Un petit peu comme mon image avec la dame qui est en train de regarder dans un bocal, puis on veut peut-être pas être observé comme ça. Parce que si je commence à faire de la formation de disciples, je vais me sentir comme le poisson qui est dans le bocal, qui est observé, qui est examiné. J'ai peur que les gens me voient. C'est contre-culturel à notre époque, comprenez-vous? Tant que je n'assume pas cette responsabilité-là, je ne suis pas responsable d'être un modèle pour les autres. Je n'ai pas à porter ce poids-là. C'est ce que je me dis. D'une part, comme j'ai dit tantôt, c'est complètement faux. Tout ce que tu fais, c'est que tu es un modèle d'un chrétien léthargique, c'est tout. Un chrétien qui dort au gaz, un peut-être chrétien. C'est tout. Tu ne peux pas fuir cette réalité-là. Si tu as l'Esprit Saint en toi, il est en train de faire du chemin dans ton cœur et donc tu as quelque chose à donner. Mais ça demande d'accepter que les gens vont m'observer. Et donc, on a peur de ça. Parce que ça demande de l'humilité. Ça demande l'humilité de reconnaître que je ne suis pas rendu. Parce qu'inévitablement, quand les gens s'approchent de moi, ils vont découvrir que je ne suis pas rendu. Fait que moi, je m'assume, je ne fais pas de formation de disciple, je ne suis pas rendu. Regarde, on savait déjà que tu n'étais pas rendu. Mais ça demande l'humilité d'accepter que les gens vont venir te challenger. Ils vont dire, ah oui, il y en a que tu travailles encore là-dessus. Ça se peut même, dans mon cas, qu'ils me disent, ouais, mais il n'y a pas des qualifications pour être ancien, Johnny. Parce que tu travailles encore là-dessus, mais moi, j'ai vu de quoi dans les qualifications? Ouais, je suis pas parfait. Je suis pas parfait. Encore des choses que je confesse quotidiennement au Seigneur. Et donc, ça demande de l'humilité. Ça demande de la générosité. Ça demande de la générosité parce que c'est dérangeant. Je veux m'investir dans la vie d'autres personnes. Et si je reviens sur le sujet des parents avec les enfants, je pense que certains parents qui ne vont jamais vraiment faire de la formation disciple avec leurs enfants parce qu'ils ne seront pas prêts à aller jusqu'à payer ce prix-là. Si vous êtes parent, vous savez c'est quoi la différence entre donner des règles, donner un cadre, énoncer des principes dans la maison, puis dire, regarde, si tu restes là-dedans, là, on ne chicanera pas trop souvent. Ça fait partie de la formation disciple, on s'entend? Mais ce n'est pas ça vraiment de la formation disciple. Il y a un certain moment donné, tu te dis, oui, mais ce n'est pas juste ça que je veux pour mes enfants. Parce qu'encore une fois, je suis en train de leur communiquer une vision très, très religieuse de ce que c'est le christianisme, d'accord? Fais ci, fais pas ça. Mais ça demande la générosité d'être là puis de créer des opportunités où on va avoir des discussions ensemble cœur à cœur. Puis quand mes enfants vont venir me voir puis vont dire, oui, mais papa, j'aimerais ça te parler de quelque chose qui ne va pas parce que ça me fatigue quand tu fais ça. Mais je vais être disponible pour écouter ça parce que peut-être que le Saint-Esprit est en train de me parler à travers eux. Et donc, ça demande l'humilité, ça demande la générosité, ça demande de la foi. Ça demande de la foi pour s'investir là-dedans, ça demande de la foi. Parce que c'est difficile de croire que Dieu est capable de changer les autres lorsque j'ai même de la difficulté à croire que Dieu est capable de me changer moi-même. Mais vous savez quoi? C'est une bénédiction incroyable de s'investir là-dedans. Parce que Dieu nous fait grandir, nous, dans notre foi. Alors, lorsque je décide d'assumer ce rôle-là, de former des disciples, selon mes dons, selon mes capacités, et on est tous différents à cet égard-là, je vais créer des opportunités. Je vais créer des opportunités où je vais pouvoir m'investir dans la relation d'autres personnes. Formellement, ça peut être à travers le coaching. Il y a une sœur qui m'a accroché juste avant, puis elle m'a dit, quel cours je devrais prendre? Tu penses-tu qu'il y a un besoin pour des coachs dans l'église? Non. Posez-moi pas cette question-là, vous savez tout de suite c'est quoi la réponse, d'accord? Alors, formellement, ça peut être ça. Ça peut être à travers des relations où on va s'asseoir, on va se rencontrer à toutes les deux semaines, on va prendre du temps ensemble, on va discuter ensemble, on va se rendre vulnérables les uns envers les autres, puis on va cheminer ensemble. Mais ça peut être avec vos enfants aussi, tout simplement, lorsqu'il y a un déclic qui se passe dans votre tête, puis vous dites, il suffit pas d'énoncer des principes, de mettre des règles à quelque part pour s'assurer que notre foyer a de l'air d'un foyer chrétien. Mais je vais faire plus que ça. Je vais m'investir dans une relation avec les enfants où je vais créer des opportunités. Et à chaque phase du développement de mes enfants, ça change. Ça change. Alors, une des joies que j'ai avec Bass actuellement, c'est de m'entraîner avec lui. Avec Jade, je vais prendre d'autres opportunités. On va aller ensemble se promener. Mais on est là, puis on jase ensemble. Puis on est en train de discuter, puis ça nous donne un paquet d'occasions pour discuter de choses qu'il est en train de vivre. Mais dans ma tête, ce que je suis en train de faire, c'est pas juste de perdre mes 15 livres de trop. C'est de m'investir dans une relation avec lui. Ou de temps en temps, ce que je peux glisser sur la table, c'est ma prière pour toi, c'est que tu deviennes un homme de Dieu. C'est pas facile de devenir un homme de Dieu. Il y a des combats, il y a des luttes. Ça peut être avec des collègues de travail. Vous êtes avec des collègues au travail, puis il y a une amitié qui s'installe, puis il y a des questions qui commencent à se poser, puis il commence à avoir des discussions, tout ça. Et dans mon processus pour pouvoir lui annoncer l'Évangile, je vais l'inviter à rentrer dans ma vie. La personne n'est pas encore chrétienne, peut-être. Mais même dans mon évangélisation, je suis en train de l'inviter à rentrer dans ma vie pour qu'elle découvre qui je suis dans ma vie chrétienne. Il va avoir d'autres opportunités. Peut-être cette personne-là va prendre une décision pour Christ. Et donc, ça veut dire que si tu as 14, 15, 16 ans, t'es à l'école, puis tu dis, ouais, mais c'est pas pour moi, là, le pasteur, il prêchait pour les vieux matin. Non, t'as des amis à l'école qui t'observent, ils te connaissent. Certains d'entre eux connaissent ta foi. Dans la relation avec eux, sans dire que tu es en train de faire de la formation disciple, tu peux toi-même partager les choses que tu vis. Et tu peux rendre donc ta foi beaucoup plus concrète que, ah oui, tu vas à l'église le dimanche matin, fait que tu peux pas venir avec nous faire du sport, c'est ça? Beaucoup plus concret que ça, puis pas juste, je suis pas d'accord avec ça. Le professeur dit « Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. » Le professeur dit « Je ne suis pas d'accord avec ça. » Un chrétien, c'est pas juste « pas d'accord avec ça. » C'est plus que ça. Et donc, tu peux rentrer dans cette relation-là où tu leur partages les choses que toi, tu vis. Et vous savez quoi? Ils aiment ça. Les gens qui ne sont pas chrétiens aiment connaître nos luttes, nos joies, nos peines, parce que le christianisme passe d'une affaire théorique à quelque chose d'extrêmement concret, de vivant, de vrai, qui est là. Et donc, ça peut se passer là, ça peut se passer avec des collègues de travail, ça commence par des amitiés, mais ça devient intentionnel. On passe de l'étape à « on va prendre un café » à « on va aller prendre plusieurs cafés ensemble parce qu'on veut discuter, je vais t'inviter à venir chez nous. Hey, ça serait le fun qu'on mange une fois ensemble. » Ça, c'est une invitation. Mais je m'investis dans une relation où de plus en plus, intentionnellement, je suis en train de l'exposer à ma vie. Et donc, ça peut se faire aussi dans l'Église. Tu es en train de servir avec quelqu'un dans l'Église, dans un ministère, puis tu vois, il y a quelque chose qui est là, quelque chose qui peut cliquer, puis tu dis « OK, je suis peut-être pas prêt encore à aller faire du coaching formellement, mais je vais commencer à m'investir dans sa vie, je vais commencer à l'inviter à s'investir dans ma vie, je vais assumer le fait que je suis appelé à devenir un modèle pour cette personne-là. » Et toi, tu vas grandir à travers ce processus-là. Toute l'Église est appelée à s'investir dans la formation de disciples. Que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec des gens avec qui vous servez dans l'Église. Cette parole-là de Paul, « Soyez mes imitateurs », c'est un appel pour toute l'Église. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Certains d'entre vous, la pensée qui vous vient, vous dites, « Yannick, ça fait 20 ans que je suis chrétien, c'est pas ça qu'on m'a enseigné. » On m'a enseigné qu'un chrétien, ça prend du temps avec Dieu. Un chrétien, ça, c'est fidèle à l'Église, ça trouve une place pour servir selon ses dons. Puis c'est pas mon don à moi de faire ça. Puis même si c'est très raisonnable, ce que je vous dis dans le fond de votre cœur, vous dites, pas moi, Yannick. Parce que ça vous fait peur de dire que vous êtes des modèles, vous êtes appelés à être des modèles, vous êtes appelés à vous exposer. Qu'est-ce que ça vous demande de prendre comme décision pour pouvoir commencer à owner ça, à vous approprier ce besoin-là, cette réalité-là. Parce que mon rêve, ma vision, c'est toute une Église qui est en train de faire de la formation de disciples. C'est toute une Église qui assume ça. Pas simplement des gens qui disent « ça, c'est mon appel, c'est mon don ». C'est toute une Église qui assume le fait qu'on est appelé à être des modèles pour les autres. Et qu'est-ce que ça me demande? Ça me demande d'accepter qu'on apprend en observant et donc que les gens autour de moi ont besoin de m'observer. Est-ce que tu acceptes ça? Les gens autour de toi ont besoin de t'observer pour grandir. Ça va te demander d'assumer les niaiseries que tu dis. Ça va te demander d'assumer les zones de faiblesse dans ta vie, mais ça va te faire grandir. Ça te demande d'accepter la responsabilité qui vient avec ça d'être un modèle pour les autres. Et pas continuer dans ta vie chrétienne en disant ça, c'est pour les gens qui sont matures, c'est pour les autres qui sont plus avancés, c'est eux autres qui doivent être des modèles. Moi, c'est pas vraiment important si je suis pas rendu là. Accepter la responsabilité que tu es appelé à être un modèle. Fait que ça commence si tu as 14 ans, tu es à l'école, puis tu as pris une décision pour Christ, déjà tu es appelé à être un modèle. Tu viens à la jeunesse, déjà tu es appelé à être un modèle. Tu as pris une décision, tes frères t'observent, déjà tu es appelé à être un modèle. Dans l'Église, qui que ce soit ici qui a reçu l'Esprit-Saint est appelé à être un modèle. Acceptez cette responsabilité-là. Évidemment, fixez les regards sur Christ. Fixez les regards sur Christ, autrement c'est trop lourd à porter cette affaire-là. Mais je fixe les regards sur Christ parce que je veux devenir comme lui et je fixe les regards sur Jésus-Christ parce que j'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin d'accepter le fait que je ne serai jamais sur la coche. Je ne serai pas rendu là. Et je veux accepter cette réalité-là, garder les yeux fixés sur lui. Ça me demande de prendre la décision de laisser des gens entrer dans ma vie. Alors, certains d'entre vous, lorsque vous regardez votre semaine, il n'y a pas d'espace pour que des gens entrent dans votre vie. Vous avez structuré votre vie avec un certain nombre de routines qui fait qu'il n'y a pas d'espace pour que des gens entrent dans votre vie. Puis vous ne voyez pas la puissance de l'Évangile se manifester dans votre vie, vous avez besoin de créer cet espace-là pour qu'il y ait des gens qui entrent dans votre vie de famille, dans votre foyer, qui viennent vous côtoyer. Ça demande aussi de prendre la décision enfin de consacrer du temps à des gens. Ça demande de prendre la décision de consacrer du temps à des gens. On est dans une église baptiste, et donc on pense, on essaye de s'attacher aux Écritures et d'enseigner les choses comme il faut, n'est-ce pas? On connaît un paquet d'affaires. Et moi, comme pasteur, avec les anciens, lorsqu'on prie pour cette église-là, on est tellement reconnaissant d'avoir le privilège de servir ici à cause du bagage de cette église. Tantôt, je parlais de ce que ça vaut dans une entreprise, 10, 20, 30 ans d'expérience en entreprise, avec une centaine d'employés qui ont toute cette expérience-là. Ça vaut des milliers de dollars. C'est là, ici, ça, dans l'église. C'est des années de vie chrétienne à lutter, à se relever, à lire les Écritures, à voir nos faiblesses. Pensez à la richesse qu'il y a là dans toutes vos expériences de vie. Et ce que je vous dis ce matin, c'est qu'on doit prendre la décision en Église, que c'est notre responsabilité à toute la gang d'entrer dans ce rôle-là, d'être des modèles. Et si ce matin ça vous fait peur parce que vous dites, moi je laisse ça aux autres d'être des modèles, repentez-vous. Pleurez là-dessus. Dites au Seigneur, Seigneur, ça me fait tellement peur. Yannick est en train de me demander de m'ouvrir à ce que d'autres me prennent comme exemple, mais tu sais que je ne suis pas un exemple. Amen. Pleure là-dessus et viens à Christ. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je viens devant toi parce que je suis reconnaissant de cet héritage incroyable qu'il y a dans cette église, Seigneur. Toutes ces années de vie chrétienne. Ce matin, Seigneur, on est quelques centaines de personnes qui ont été bouleversés par Jésus-Christ, une rencontre qui a façonné nos vies, qui a transformé toutes sortes de choses dans nos vies, Seigneur. Et cet héritage est là, il est présent, il est disponible, Seigneur. Et tu sais, quand je prie pour l'Église de l'Espoir, quand je prie pour les gens, mon cœur est tellement rempli de reconnaissance, Seigneur, pour cette Église qui a une belle maturité. C'est vraiment génial. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous. Je te demande, Seigneur, de venir convaincre nos cœurs ce matin, que tu nous donnes l'opportunité d'être cette incarnation de la personne de Christ et que tu nous donnes cette responsabilité d'accepter que les gens doivent entrer dans nos vies, Seigneur. Je prie, Père, par ton Esprit Saint ce matin de convaincre des dizaines et des dizaines de personnes et toute l'Église, Seigneur, à assumer cela entièrement. Seigneur, la ville de Longueuil a besoin de ça. Nos enfants ont besoin de ça, Seigneur. Nos familles ont besoin de ça. L'Église a besoin de ça, Seigneur. Je te remercie pour mes parents qui ont toujours assumé ce rôle. Je te remercie, Seigneur, pour Richard Roule qui l'a toujours assumé et tant d'autres hommes qui se sont investis dans ma vie, Seigneur. Je te remercie pour les dizaines de personnes dans l'Église ici qui déjà sont engagées dans cette voie-là, Seigneur, et ceux qui veulent grandir. Seigneur Jésus, nous ne sommes pas rendus, et c'est souvent ça qui nous paralyse, mais nous voulons fixer les regards sur toi, Jésus-Christ. Fixer les regards sur toi afin de devenir comme toi, Seigneur, et nous appuyer sur ta grâce seulement, Seigneur. Parce que nous ne serons jamais à la hauteur ici-bas. Mais par la foi, Seigneur, nous voulons aller faire de toutes les nations des disciples. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.